Biotine, l'émission de vulgarisation scientifique de Graphite.
Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez donc Biotine, l'émission d'actualité scientifique. Effectivement, je m'appelle Jean-Noël, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, samedi 8 novembre, la rediffusion de cette émission le mardi matin à 10h, bien évidemment. Donc, comme c'est une rediffusion, je ne vous ferai pas l'éphéméride du mardi, mais je vous ferai celle du samedi. Le 8 novembre 1895, William Röntgen découvre le rayon X en 1895. Et en 1957, c'est le premier essai d'une bombe H britannique un 8 novembre également. Naissance. Alors ça c'est intéressant, le 8 novembre 1656 d'Edmond Halley, qui est un astronome et un ingénieur britannique. Halley, ça nous dit quelque chose, sûrement. Ingénieur, scientifique pluridisciplinaire, il est surtout connu pour avoir été le premier à avoir déterminé la périodicité d'une comète en 1682. Il fixe par calcul environ 76 ans cette périodicité de cette comète. Et quand Halley avait prédit le retour de la comète pour 1758, sa prophétie ne va pas soulever beaucoup d'enthousiasme parce qu'elle se situait dans un demi-siècle dans l'avenir. Il est mort avant, il est mort en 1742, et les notices nécrologiques insistèrent longuement sur ses expéditions maritimes, ses découvertes, sur la cloche à plongeur dont il était l'inventeur. C'est un peu l'époque où on touchait à tout, hein, quand on touchait à la science. Et ces notices nécrologiques vont passer sous silence sa prévision sur la comète, et ça va tomber dans l'oubli. C'est plus d'un siècle après, en 1757, qu'un mathématicien français qui s'appelle Alexis Clairaut, il va prendre la décision de reprendre les calculs de Halley afin d'améliorer la précision des calculs, de prédire plus finement la date de retour de la comète. Les délais étaient courts, les calculs devant être refaits avant la réparation de cette comète, afin de couper court à toute accusation de tromperie. Donc il s'est dépêché, il s'est dit « Oh là là, va bientôt revenir, vite, vite, il faut que je calcule. » Et après donc des mois de calcul, l'équipe des trois astronomes, parce qu'il était avec deux autres collègues, annonce que la comète va effectuer son passage au périhélie, donc c'est, juste au-dessus de la Terre, on va dire, ça va être ça, le 13 avril 1759. La communauté astronomique mondiale, qui mettait en doute pour une partie d'entre elles la prédiction de Halley, n'ont pas vu venir cette comète. Et donc, ils ont dit, on va quand même regarder le ciel. Et puis, on s'est rendu compte que la comète allait observer à l'endroit exact où l'avait prédit Halley par un observateur, en fait. Et il a regardé, il s'est dit, effectivement, la comète revient bien à l'endroit où Halley l'avait prédit 100 ans avant. Trois mois avant sa mort, Halley énonçait, si le retour prévu par nous pour l'année 1758 se réalise, l'impartiale postérité ne se refusera pas à reconnaître que ce fut un Anglais qui l'annonça pour la première fois. Oui, c'était déjà la guerre entre les Anglais et les Français à l'époque. Un vœu qui est largement exaucé puisque la communauté des astronomes décide, à la suite de ce succès posthume, de donner le nom de Halley à cette comète. Donc, la fameuse comète de Halley, ça vient de là. Il avait bien prédit sa périodicité d'une façon vraiment précise, et donc du coup, voilà, on a pu vraiment se dire, mais effectivement, il avait prédit quelque chose de juste. C'est donc bien un Anglais qui avait prédit cette périodicité pour la première fois. Il avait raison, il s'appelait Edmond Halley, il est donc né un 8 novembre 1656. Décès le 8 novembre 1719 du mathématicien français Michel Rolle, est principalement connu pour avoir établi dans le cas particulier des polynômes réels à une variable, une première version d'un théorème qui porte maintenant son nom. Donc là, on est vraiment dans un domaine que seuls les mathématiciens peuvent connaître. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il va inventer une notation qui est maintenant normalisée, qui est la racine carrée, et la racine énième d'un réel x. Vous savez, ce symbole qui ressemble un peu à un grand V, eh bien, c'est bien lui, Michel Rolle, français, qui a donc inventé ce signe, la racine énième d'un réel X, la racine carrée. Voilà, c'est donc Michel Roll, et donc on célèbre aujourd'hui son décès le 8 novembre 1719. On célèbre, c'est peut-être pas le mot, enfin en tout cas on a une mémoire. Pour lui, c'est ça l'éphéméride de cette émission.
Jean-Noël Moreau, Biotine, sur Graphite.
Vous nous écoutez sur 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Hein, vous avez la possibilité de pouvoir récupérer les podcasts de toutes les émissions et de vous tenir informé ainsi de l'actualité scientifique n'importe où, hein, quand vous le souhaitez, où vous soyez. Vous avez donc la possibilité de vous connecter sur le site Internet de Graphite, graphite.net, pour récupérer tous les podcasts, parce que nous sommes aujourd'hui samedi, bien évidemment, mais peut-être pas nécessairement samedi que vous êtes en train d'écouter cette émission, bien sûr. Alors, plusieurs articles que l'on va évoquer dans cette émission, essentiellement au niveau médecine. Alors, la première, elle est assez intéressante. Ce sont des chercheurs japonais qui ont recours à une technique novatrice pour traiter le syndrome de Down, qui est le syndrome de la trisomie 21. Avec des ciseaux moléculaires, ils ont pu retirer le chromosome en trop dans des lignées cellulaires de trisomie 21. Cette trisomie 21, qu'on appelle aussi donc le syndrome de Down, est une anomalie chromosomique qui est causée par la présence d'un chromosome 21 supplémentaire. Il y en a 3 au lieu de 2. Selon les Nations Unies, la prévalence du syndrome de Down est estimée entre 1 sur 1000 et 1 sur 1100 naissances vivantes dans le monde. C'est quand même assez important. Des chercheurs donc de l'université de Mie au Japon ont eu recours à des nouvelles techniques d'édition du génome pour traiter dans des tests in vitro la trisomie directement dans les cellules. Ces techniques novatrices sont en effet utilisées pour modifier les séquences d'un ADN qui constitue le génome, et plus précisément, les chercheurs ont pu cibler et retirer le chromosome 21 dans des lignées cellulaires de trisomie 21 créées à partir de cellules de la peau. Et ça a été distingué par un prix Nobel en 2020. C'est un nouveau système simple, efficace, rapide pour couper l'ADN à un endroit précis du génome. Cette technique, elle s'appelle CRISPR. On en a déjà parlé dans cette émission. C'est-à-dire, voilà, c'est vraiment des ciseaux, on va dire. Le schéma est assez juste, hein, des ciseaux qui vont pouvoir couper l'ADN où il le faut. Les résultats ont été publiés il y a quelques mois dans la revue PNAS Nexus. Ils ont été observés dans des cellules souches également sur des fibroblastes. Donc on est sur vraiment des cellules très spécifiques, mais on a pu pouvoir travailler sur ces cellules souches qui sont largement utilisées pour modéliser de nombreuses pathologies humaines. C'est ça qui est assez intéressant. On est sur du in vitro, donc on n'est pas dans le corps humain. On est vraiment quelque part dans des boîtes de pétri, on va dire. On fait ça en laboratoire, mais ça permet quand même d'avoir des avancées assez intéressantes. Elles sont justement ces cellules, on a pu travailler dessus et on a pu avoir, comme on ne touche pas le corps humain, ça nous permet d'être un petit peu plus libre et aller un petit peu plus dans les... dans les expériences, entre guillemets. On a retiré donc ce chromosome en trop dans les cellules, et cette équipe japonaise a observé un retour à la normale, entre guillemets, de l'expression génétique et de l'activité cellulaire. Alors, pour l'heure, la technique ne peut pas être appliquée sur l'homme. Là, on le fait, donc, je vous l'ai dit, sur des cellules en laboratoire. Les scientifiques estiment toutefois qu'une technique similaire pourrait être utilisée chez les personnes présentant une trisomie 21 sur les neurones ou sur les cellules gliales. C'est les cellules qui maintiennent les neurones également. Toutefois, la trisomie 21 n'étant pas une maladie à guérir, cette avancée scientifique soulève aussi des questions éthiques, bien évidemment, parce que si on peut corriger cette erreur génétique en laboratoire, qui empêcherait quelqu'un d'essayer de le faire sur l'homme? C'est toute la question, bien évidemment, et c'est très très souvent des questions éthiques qu'on aborde aussi dans cette émission. C'est un peu le piège, bien sûr, hein, c'est que effectivement, on peut être sur des expérimentations qui ne sont pas du tout contrôlées, entre guillemets, et on ne sait pas trop ce qui peut se faire, parce que cette technologie de ciseaux moléculaires pour couper l'ADN, elle est assez facilement reproductible. Et donc, je caricature un peu, mais genre, chacun peut le faire dans son garage, entre guillemets. Bon, faut avoir le matériel adéquat, faut avoir quelques connaissances, mais enfin, c'est quand même quelque chose qui peut être facilement utilisable, entre guillemets. Et donc, on peut essayer de faire des expériences chez soi. Qui en empêcherait ? Ça va être assez compliqué. C'est une vraie question, bien sûr. Mais en tout cas, là, au niveau de la trisomie 21, les expériences qui ont été faites en laboratoire sont assez intéressantes. Au niveau des résultats, c'est assez... Ça pose quelques questions, bien sûr. Mais alors après, derrière, il y a quand même un vrai questionnement. Autre sujet, mais cette fois toujours au niveau médecine... On va parler de la tension artérielle avec l'idée de pouvoir rechercher des solutions naturelles pour maintenir une bonne santé cardiovasculaire. Ça intéresse autant les scientifiques que le grand public. Il y a une découverte particulièrement prometteuse qui concerne les flavanols, je vais y arriver, des composés végétaux qui sont présents dans le thé, le cacao et certains fruits. Et ces substances, elles pourraient jouer un rôle déterminant dans la régulation de la pression artérielle, ce qui offre une approche préventive accessible à tous pour préserver la santé du cœur. Donc ces flavanols, ils appartiennent à une famille qui sont des pigments naturels qui donnent aux plantes leur couleur vibrante et les protègent des agressions extérieures. Pour les humains, ces composés pourraient représenter bien plus qu'une simple note gustative. Il y a une analyse assez intéressante qui concerne 145 essais cliniques qui ont été réalisés, plus de 5000 participants. Et on a fait une analyse de tout ce qui avait été mené et on a révélé que la consommation régulière de ces flavanols peut réduire la tension artérielle systolique et la tension diastolique également de façon assez significative. Et plus remarquable encore, chez les personnes qui souffrent déjà d'hypertension, la baisse observée était assez significative. Ces résultats, ils sont particulièrement intéressants car ils se rapprochent des effets obtenus avec certains médicaments anti-hypertenseurs. Le professeur Christian Hayes de l'université de Surrey, qui est impliqué dans ces recherches, il souligne que ces améliorations pourraient considérablement réduire les risques d'accidents cardiovasculaires à long terme. L'atout majeur de cette découverte réside dans l'accessibilité des aliments riches en flavanol. Les études suggèrent qu'une consommation quotidienne de 500 à 600 mg de ces composés pourrait suffire pour observer des bénéfices tangibles. Donc c'est quand même assez intéressant. Alors les principales sources alimentaires qui peuvent nous aider à atteindre cet objectif, c'est le thé noir ou le thé vert en raison de 2 à 3 tasses par jour, le chocolat noir, on prend 2 carrés de chocolat noir, des pommes, des poires, des raisins et différentes baies également, et la poudre de cacao non sucrée également. Les études montrent que l'obtention de ces composés via l'alimentation serait plus efficace que par la supplémentation, c'est-à-dire par le biais de médicaments. Les aliments entiers contiennent donc d'autres substances bioactives qui pourraient agir en synergie avec les flavanols, et l'idée, ça va être d'optimiser ainsi leur absorption et bien sûr leur efficacité. Alors, il y a une étude qui a été menée auprès de plus de 21 000 personnes qui a d'ailleurs démontré que les flavanols du cacao pouvaient réduire la mortalité cardiovasculaire de 27%, c'est quand même assez impressionnant, contrairement aux multivitamines qui n'ont pas montré d'effet significatif. L'amélioration de la fonction endothéliale constitue l'un des mécanismes clés par lequel les flavanols agissent sur la santé cardiovasculaire et donc les recherches ont observé une augmentation moyenne de des vaisseaux sanguins, le flux sanguin était augmenté et donc il y avait quand même quelque part quelque chose de plus bénéfique qui se mettait en place après une consommation régulière de ces flavanols. Ce bénéfice apparaît même chez les personnes ayant une tension artérielle normale, ce qui suggère que ces composés pourrait protéger les vaisseaux sanguins par plusieurs voies métaboliques. Et cette protection préventive pourrait s'avérer précieuse puisque même une tension artérielle légèrement élevée augmente déjà les risques cardiovasculaires selon les récentes directives de la Société européenne de cardiologie. Les effets secondaires associés à la consommation de ces flavanols sont généralement rares et bénins, ce qui se limite principalement à des troubles digestifs légers. Ça confirme donc la sécurité d'intégrer ces aliments dans l'alimentation quotidienne. L'intérêt majeur de cette approche, elle réside dans sa simplicité et son caractère accessible. Parce que contrairement à certaines tendances santé qui impliquent des super aliments exotiques ou des compléments plutôt coûteux, là on est quand même dans des aliments assez courants que la grande majorité des personnes apprécient déjà. Donc c'est quand même quelque part un peu bénéfique, bien évidemment. Remplacer une collation sucrée par une pomme ou un carré de chocolat noir, ou instaurer un rituel de thé quotidien, eh bien ça pourrait progressivement améliorer la santé cardiaque. Pour les personnes soucieuses de leur santé cardiovasculaire, ces petits arrangements constituent une stratégie complémentaire aux recommandations médicales habituelles. Bien que les flavanols ne remplacent pas les médicaments pour tous les patients hypertendus, eh bien ils représentent une espèce d'approche préventive naturelle que les médecins peuvent désormais recommander avec confiance. En combinaison avec d'autres habitudes saines, ils pourraient offrir une contribution significative à la santé cardiovasculaire globale. Et donc une tasse de thé quotidienne, ça ne va pas moderniser la médecine bien sûr, mais ces recherches attestent qu'elle pourrait bien constituer un geste simple au bénéfice durable de notre cœur. C'est ça, voilà, c'est assez intéressant, ce simple composant alimentaire qui pourrait donc réduire notre tension artérielle. Eh bien écoutez, 2 à 3 tasses de thé, 2 carrés de chocolat, une pomme, une poire, du raisin et une poudre de cacao non sucré. J'ai connu pire, je crois, comme régime alimentaire. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, bad boys. What you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? Or what you gonna do? You chuck it on that one, you chuck it on this one. You chuck it on your mother and you chuck it on your father. You chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nobody now give you no break. Police now give you no break. That old soldier man now give you no break. Not even your eyes you now give you no breaks. Hey, hey, bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you?
What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one. You chuck it on your mother and you chuck it on your father. You chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, what you gonna do?
Elle est pas mal la programmation de Graphite quand même. Bad Boy, c'était Inner Circle sur l'antenne de Graphite.
Biotine, Jean-Noël Moreau.
Je découvre en même temps que vous ces titres. Je choisis un peu au hasard dans la playlist qu'on nous fournit et je découvre en même temps. Mais là, c'était quand même très sympa. Des fois, c'est un peu... Comment dire ? C'est pas toujours le cas, on va dire. Mais là, pas mal. Je suis assez fier de moi. Vous écoutez Biotine, c'est... Non mais c'est vrai qu'il y a des moments où, comme je découvre très souvent les titres en même temps goût, je me dis ah, là j'ai peut-être pas choisi ce qu'il fallait, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on n'est pas parfait en tout. Alors j'étais en train de regarder un petit peu dans les articles que j'avais à vous proposer aujourd'hui. Finalement, je me rends compte qu'il y a pas mal d'articles au niveau de la médecine, donc ça va être intéressant peut-être d'essayer de faire une thématique médecine au sens large dans cette émission, avec notamment ce sujet de pouvoir rester jeune plus longtemps. Et si finalement un simple traitement pouvait freiner le vieillissement de nos cellules ? C'est une nouvelle étude qui suggère qu'un médicament courant qui est déjà prescrit dans le diabète de type 2, qui pourrait avoir un effet inattendu sur notre horloge biologique. Ce médicament augmente la longueur des télomères. Les télomères, c'est au niveau des chromosomes, c'est un peu les extrémités des chromosomes, ça sert un peu de capuchon, entre guillemets. Et plus les télomères sont, comment dire, préservés, plus l'information génétique est donc préservée au sens large, et on considère que le raccourcissement de ces télomères est associé au vieillissement et aux maladies liées à l'âge. Et donc, on a un médicament qui augmenterait apparemment la longueur de ces télomères, et cette découverte, elle ouvre la voie à une approche combinée du traitement du diabète d'un côté et la gestion des biomarqueurs du vieillissement de l'autre. Cette étude a été menée par une équipe de chercheurs chinois. Ils ont travaillé sur 140 patients âgés de 35 à 70 ans. Ils sont tous atteints de diabète de type 2. Ils sont répartis aléatoirement entre un groupe qui va recevoir ce médicament et un autre groupe qui ne va rien recevoir, ou qui va recevoir un placebo, et ce qui nous permet donc de faire des études comparatives entre ces deux groupes. Et les chercheurs ont mesuré la longueur des télomères dans les leucocytes sanguins. Et puis ils ont aussi analysé et mesuré d'autres biomarqueurs liés au vieillissement. Les résultats, ils sont vraiment significatifs. 90% des participants qui sont traités par ce médicament, ce qui s'appelle l'énagliflozine, eh bien, ils ont présenté un allongement des télomères contre 65% sous placebo. En plus de cet effet sur les télomères, le médicament a amélioré le contrôle du sucre dans le sang. Ils ont renforcé certains facteurs de croissance et ça a également stimulé le système immunitaire. Les chercheurs précisent que ces changements ne s'expliquent pas seulement par le mode de vie, ce qui laisse penser que le médicament a un effet direct sur le vieillissement cellulaire. Au niveau mondial, selon la Fédération française des diabétiques, le diabète de type 2 touche près de 600 millions d'adultes. Et ils ont entre 20 et 79 ans. Il n'y a pas une notion d'âge derrière ça. Et ce chiffre pourrait atteindre plus de 850 millions de personnes d'ici 2050. Cette maladie accélère le vieillissement des cellules. Certaines cessent de se diviser et libèrent des molécules inflammatoires qui vont endommager les tissus. L'étude qui a été publiée dans la revue Cell Reports Medicine suggère qu'un traitement combinant le contrôle du sucre et l'impact sur les marqueurs du vieillissement, eh bien, ce traitement pourrait offrir une nouvelle stratégie pour ralentir ce processus de vieillissement. Le médicament étudié, il abaisse la glycémie en empêchant les reins de réabsorber le sucre. Et il favorise aussi la perte de poids et il reproduit certains effets d'un régime hypocalorique qui est connu, ce régime, pour ralentir le vieillissement. Si ces résultats se confirment, il ne s'agirait pas seulement de mieux contrôler la glycémie, mais aussi de préserver certaines fonctions biologiques liées à la jeunesse et à la santé. Et les chercheurs insistent toutefois sur la prudence. Il y a d'autres essais plus larges et détaillés qui seront nécessaires pour confirmer ces effets, bien évidemment. C'est qu'une première étape dans cette étude, mais les résultats sont assez intéressants. Quoi qu'il en soit, cette découverte illustre à quel point certaines solutions médicales bien connues peuvent receler des surprises inattendu pour notre longévité, donc un antidiabétique qui pourrait avoir un effet sur le vieillissement. C'est assez surprenant, bien évidemment, mais affaire à suivre. Parce que là, vous l'avez compris, on est quand même sur à peu près 120 personnes, 140. Ça reste une petite étude, entre guillemets, mais qui doit se confirmer par la suite. Autre sujet concernant cette fois la santé de notre cerveau, qui pourrait être plus étroitement lié à celle de notre système digestif. Alors, on le savait déjà, mais là, on a encore des confirmations avec des nouvelles études. Une étude pionnière qui avait été publiée dans Nature Communications au début de l'année 2024, il me semble qu'on en avait parlé dans cette émission, eh bien, cette étude vient confirmer cette hypothèse en démontrant qu'une supplémentation quotidienne en prébiotiques améliore les performances cognitives chez les personnes âgées. Cette découverte, elle est réalisée il y a quelques mois, mérite qu'on s'y intéresse de plus près. Et Futura Science s'intéresse justement sur ce sujet-là et propose un article assez intéressant parce qu'on se rend compte que cela pourrait transformer notre approche du vieillissement cérébral. Les chercheurs du King's College de Londres ont réalisé une première mondiale en étudiant l'impact des prébiotiques sur la cognition chez des jumeaux. 36 paires de jumeaux âgés de plus de 60 ans. Cette méthodologie unique permet d'isoler efficacement les facteurs environnementaux des facteurs génétiques. L'équipe de recherche a divisé chaque paire de jumeaux en assignant à l'un d'eux un supplément quotidien de prébiotiques mélangé à une espèce de proude de poudre protéinée, et puis l'autre jumeau recevait un placebo. Et l'expérience s'est déroulée sur une période de 3 mois, à l'issue de laquelle les participants ont passé des tests cognitifs et les résultats ont été remarquables. Pardon. Résultat remarquable, les jumeaux ayant consommé des prébiotiques ont généralement obtenu de meilleurs scores aux tests de mémoire visuelle et d'apprentissage par rapport à leurs frères ou sœurs qui étaient sous placebo. Et donc la chercheuse en gériatrie au King's College de Londres, qui s'appelle la docteure Marinine Lochlein, elle s'est déclarée enthousiaste. Elle dit « Observer ces changements en seulement 12 semaines est très prometteur ». Pour améliorer la santé cérébrale de notre population vieillissante. Alors, l'étude elle s'est concentrée sur deux types de prébiotiques qui sont disponibles en vente libre et qui sont accessibles d'un point de vue financier. L'un, c'est l'inuline, qui est une fibre alimentaire, et l'autre, ce sont les fructo-oligosaccharides. Ce sont des glucides, des sucres végétaux, souvent utilisés comme édulcorants naturels à faible teneur en calories. Et ces prébiotiques sont des substances non digestibles qui stimulent la croissance et l'activité de certaines bactéries bénéfiques dans notre intestin. Et après 3 mois donc de supplémentation, les chercheurs ont constaté une modification subtile mais significative du microbiome intestinal des participants. Et en particulier, ce sont les bifidobactériums, ce sont des bactéries qui sont reconnues pour leur effet bénéfique. Elles étaient plus abondantes chez les jumeaux qui avaient reçu les prébiotiques. Il y a des études antérieures sur des souris qui avaient été menées et qui suggèrent que ces fameuses bactéries réduisent les déficits cognitifs en régulant les connexions entre l'intestin et le cerveau. Donc il y a bien un lien entre les deux. Cette découverte renforce l'idée donc que notre intestin, qui est parfois qualifié de deuxième cerveau, il communique bien activement avec notre système nerveux central et influence donc nos fonctions cognitives. Une autre chercheuse, la professeure Claire Stevens, qui fait partie de la même équipe, elle souligne l'accessibilité de cette approche parce qu'elle dit « Ces fibres végétales peu coûteuses, disponibles sans ordonnance, pourraient profiter à un large groupe de personnes, notamment en période de restrictions budgétaires. Elles sont également sûres et bien acceptées. » Alors, l'étude, elle suggère que le déclin cognitif n'est pas uniquement une maladie du cerveau, mais pourrait impliquer des facteurs externes, notamment la santé intestinale, et cette perspective elle est particulièrement pertinente, notamment pour comprendre la maladie d'Alzheimer, qui touche davantage les femmes. Alors, l'article nous dit qu'il convient pourtant de noter certaines limites de l'étude. Les participants étaient majoritairement des femmes et les effets à long terme restent à confirmer, bien évidemment. Et puis, il n'y a aussi aucune amélioration significative de la masse musculaire qui était observée, malgré l'importance des prébiotiques dans le maintien musculo-squelettique. Bref, les chercheurs prévoient maintenant d'étendre un petit peu leurs investigations à des groupes plus larges et sur des périodes plus longues pour confirmer ces résultats prometteurs. C'est très souvent le cas dans cette émission. On est sur des études qui ont été menées sur un panel pas important de personnes et sur des temps plutôt courts. Et on voit un petit peu ce que ça donne. Et si on voit quelques premiers résultats, on est bien sûr obligé de pouvoir les confirmer en étant sur une échelle plus large, une échelle de temps, une échelle de personnes plus importante. Cette étude, elle s'inscrit dans une situation assez grandissante de recherche qui démontre l'important de l'axe intestin-cerveau. On en a déjà parlé dans cette émission, et on a de plus en plus de recherches qui confirment bien ce lien et qu'il y a vraiment quelque chose à creuser entre l'intestin et le cerveau. Le microbiome intestinal influence non seulement notre système immunitaire, si on le savait, mais également notre système nerveux central. Les prébiotiques comme, donc on l'a dit, l'inuline ou alors les fructo-oligosaccharides nourrissent un petit peu les bonnes bactéries de notre côlon, ce qui va créer un environnement propice à leur développement. Ces micro-organismes produisent ensuite des substances qui peuvent traverser la barrière de notre intestin et aussi au niveau du cerveau, et ça peut affecter de façon positive les fonctions cérébrales. Et donc, nourrir notre microbiome avec des bons nutriments pourrait donc constituer une stratégie simple mais efficace pour maintenir nos capacités cognitives en vieillissant. Une alimentation riche en fibres et en prébiotiques naturels pourrait ainsi devenir apparemment un complément essentiel aux approches traditionnelles de prévention du déclin cognitif qui est donc lié à l'âge. Mais c'est assez intéressant donc de voir ces chercheurs qui découvrent un lien étonnant et de plus en plus confirmé entre l'intestin et la mémoire, notamment chez les plus de 60 ans, bien sûr. Affaire à suivre, bien sûr, parce que ce genre d'article, on a déjà vraiment abordé ce sujet-là dans des émissions précédentes de Biotine, hein, ce lien et l'importance de l'intestin sur les fonctions cognitives, ce qui au départ n'est pas nécessairement flagrant. Hein, on se dit, tiens, que vient faire l'intestin dans ce cas, mais voilà, cette étude confirme un petit peu cela, bien sûr. Voilà, donc pas mal de sujets médecine, je crois qu'il y en a encore d'autres qui nous attendent juste après The Mysterians sur l'antenne de Graphite.
This is the strangest goodbyes.
Goodbye Sunshine, c'était The Mysterians sur l'antenne de Graphite.
Biotine, Jean-Noël Moreau.
Alors, je cherchais encore des articles au niveau médecine. En fait, je vois que j'en ai plein. Alors, je vais quand même pas vous imposer une émission spéciale médecine. On parlera d'autres sujets tout à l'heure. On parlera d'intelligence artificielle tout à l'heure. Mais là, on va parler du psoriasis. Tout à l'heure, comme j'étais en train de chercher l'article, j'ai dit, tiens, est-ce que je vais pouvoir réussir à dire psoriasis? Je vais peiner. Ça va être un article qui va parler de ça. Le psoriasis qui touche environ quand même 2 400 000 personnes en France. C'est une maladie chronique qui impacte lourdement la qualité de vie des patients en provoquant des plaques rouges, des démangeaisons et parfois des douleurs articulaire. Mais si elle ne peut pas être guérie, il y a une nouvelle piste qui apporte de l'espoir, c'est l'alimentation. Il y a une équipe de Madrid, c'est pas souvent qu'on parle de l'Espagne dans cette émission, mais là c'est une équipe de Madrid qui vient de publier les résultats d'un essai clinique qui démontre qu'un changement spécifique de la façon de manger pourrait réduire l'inflammation et améliorer le quotidien des patients. Cette étude a suivi une quarantaine de personnes atteintes de psoriasis léger à modéré pendant 16 semaines. Ils ont été répartis en deux groupes. Les volontaires suivaient soit un régime méditerranéen personnalisé et supplémenté en huile d'olive, et les autres suivaient un régime pauvre en graisse. Et donc on est toujours dans les mêmes protocoles expérimentaux, hein, c'est-à-dire avoir deux groupes et d'essayer de voir quelle différence peut y avoir entre ces deux groupes. Les patients donc, qui ont suivi les régimes méditerranéens ont vu leur indice qui mesure la gravité du psoriasis chuter en moyenne de 3 points, alors que celui du groupe témoin est resté stable. Et près de 48% des participants au régime méditerranéen ont constaté une amélioration de 75% de leurs symptômes. Donc on s'est dit, il y a quand même quelque chose qui existe. D'autres bénéfices ont été constatés, hein, tels qu'une meilleure qualité du sommeil, une réduction de l'anxiété, une baisse de l'hémoglobine glycée, qui est un indicateur important, car le psoriasis est souvent associé au diabète et aux maladies cardiovasculaires. Et cet essai clinique a révélé qu'un régime méditerranéen de 16 semaines améliorait significativement la gravité du psoriasis. C'est ce que concluent les auteurs. Ces résultats suggèrent que l'intégration de stratégies diététiques pourraient être bénéfiques comme traitement d'appoint dans la prise en charge du psoriasis. Le régime méditerranéen, il est inspiré de traditions culinaires espagnoles, italiennes, grecques, qui met l'accent sur les fruits et les légumes colorés riches en antioxydants, les céréales complètes, les légumineuses et poissons gras, l'huile d'olive extra vierge, les noix et les graines. Et donc cette combinaison, elle offre une espèce d'action anti-inflammatoire et antioxydante, susceptible de réduire le stress oxydatif et l'activité immunitaire exacerbée, typique du psoriasis. Alors ces résultats, ça rejoint des observations antérieure. Il y a une étude qui a été publiée qui avait déjà montré une corrélation entre une meilleure adhésion au régime méditerranéen et une réduction de la sévérité de la maladie. Donc là, on est sur quelque chose de similaire. Le dermatologue Alvaro González Cantero, qui a participé à cette étude, rappelle que, je cite, les principaux composants du régime méditerranéen influencent de façon positive le psoriasis en réduisant l'inflammation et en améliorant les comorbidités qui y sont associées. En résumé, les médicaments reste indispensable, bien sûr, pour soigner le psoriasis, mais cette étude montre qu'une bonne alimentation peut aussi aider. Le régime méditerranéen apparaît comme un complément simple et naturel sans risque majeur. Bien sûr, il faudra, bien évidemment, là encore, vous l'avez compris, d'autres recherches pour confirmer ces résultats. Mais le message est assez encourageant et c'est ça qui est intéressant. En adaptant son assiette, on peut déjà améliorer ses symptômes et donc pouvoir mieux vivre avec cette maladie, bien sûr. Donc, affaire à suivre. Mais voilà, pour ceux qui seraient atteints de psoriasis, eh bien, on ne peut que vous inciter à vous mettre au régime méditerranéen. Ça ne guérit pas, mais disons que ça peut soulager un peu et c'est pas plus mal. Autre sujet, mais toujours en médecine, cette fois, on va parler de la lombalgie chronique, qui représente l'une des principales causes d'invalidité à l'échelle mondiale. Face à l'augmentation des modes de vie sédentaires, eh bien, les scientifiques recherchent des solutions accessibles et efficaces pour prévenir cette affection. Il y a une récente étude norvégienne, c'est pareil, on ne parle pas souvent de la Norvège dans cette émission, mais là, cette étude norvégienne apporte un éclairage assez prometteur. L'étude explique que marcher 78 minutes par jour réduirait considérablement les risques de développer ces douleurs persistantes de lombalgie. Cette découverte simple mais puissante pourrait transformer notre approche préventive des problèmes de dos. Des chercheurs de l'Université norvégienne des sciences et de la technologie ont mené une vaste étude impliquant plus de 11 000 adultes. Leur objectif était de clarifier la relation entre la marche quotidienne et le risque de lombalgie chronique. Une question jusqu'alors entourée d'incertitudes malgré l'importance de cette problématique de santé publique. Et les résultats, ils sont assez révélateurs. Les participants marchant entre 78 et 100 minutes par jour ont vu leur risque de lombalgie chronique diminuer de 13% par rapport aux personnes moins actives. Plus impressionnant encore, ce risque baissait de 23% chez ceux qui dépassaient les 100 minutes quotidiennes. Ce qui surprend particulièrement les chercheurs, c'est que l'intensité de la marche semble jouer un rôle secondaire. C'est avant tout la durée de l'activité qui compte, ce qui offre ainsi une solution accessible à tous, indépendamment de la condition physique. La régularité prime donc sur l'intensité. L'idée, c'est de marcher. C'est pas nécessairement de marcher vite et fort, mais c'est de marcher tout simplement. L'activité modérée suffit à produire des effets bénéfiques. La prévention, elle devient possible sans équipement coûteux, parce que là, c'est juste marcher, et il n'y a pas besoin d'expertise particulière pour en bénéficier. Cette découverte, elle s'inscrit en fait dans une compréhension plus large des mécanismes préventifs contre les douleurs dorsales. Et de ce fait, la marche prolongée renforce les muscles stabilisateurs du dos, tout en améliorant la circulation sanguine dans cette région. Ce sont deux facteurs essentiels pour maintenir une colonne vertébrale en bonne santé. L'étude norvégienne se singularise par sa méthodologie solide, les participants qui étaient initialement exempts de douleurs lombaires, ils ont été suivis pendant près de 4 ans. Et pour mesurer précisément l'activité physique, les chercheurs ont utilisé des accéléromètres qui étaient fixés à la cuisse droite et au bas du dos des participants pendant une semaine complète. Il y a eu plus de 11 000 personnes qui ont été suivies. 1600 ont développé des lombalgies chroniques durant la période d'observation et les données recueillies ont permis d'établir une corrélation claire entre le temps de marche quotidien et la réduction du risque. Les chercheurs ont pris soin d'isoler la variable marche des autres facteurs pouvant influencer les résultats. Ils ont notamment contrôlé l'effet de l'âge, bien sûr, le sexe, l'indice de masse corporelle, les autres paramètres pertinents. Bien que l'étude repose sur des observations et ne montre pas un lien de causalité directe, eh bien la corrélation observée elle est suffisamment significative pour justifier des recommandations de santé publique. Les scientifiques prévoient d'ailleurs de conduire des essais cliniques contrôlés pour confirmer ces résultats prometteurs. Et face à la prévalence croissante des lombalgies chroniques, eh bien cette découverte elle offre une solution préventive, simple mais puissante. Donc, atteindre 78 minutes de marche quotidienne, ça peut quand même sembler ambitieux dans nos sociétés sédentaires, mais plusieurs stratégies permettent d'y parvenir progressivement. L'idée, ça serait un petit peu de fractionner cette activité en plusieurs sessions tout au long de la journée. Ça représente quand même une approche un peu plus réaliste. Et descendre du bus, par exemple, une station plus tôt. Privilégier les escaliers aux ascenseurs. Programmer des pauses marche pendant les heures de travail sont d'autant d'habitudes qui pourraient s'additionner jour après jour. Et on pourrait additionner un petit peu tous ces petits moments qui, au final, seraient assez bénéfiques. L'utilisation d'applications de comptage de pas peut également servir de motivation en rendant visibles les progrès réalisés. L'objectif des 10 000 pas quotidiens qui sont cet objectif c'est assez popularisé ces dernières années, ça correspond approximativement à peu près à ces 78 minutes recommandées par cette étude norvégienne. Et les bénéfices de cette pratique dépassent largement la prévention des lombalgies. La marche régulière améliore la santé cardiovasculaire, contribue au contrôle du poids, renforce le système immunitaire et offre ainsi une approche holistique du bien-être. À l'heure où les traitements médicamenteux et chirurgicaux montrent leurs limites, eh bien cette solution naturelle et sans effet secondaire mérite toute notre attention. Mais voilà, cette étude norvégienne qui nous dit qu'il faut marcher 78 minutes par jour pour prévenir le mal de dos chronique. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, mes enfants, il suffit de marcher en écoutant Biotine, bien évidemment, bien évidemment. We'll be right back. Gateway, c'était Meul sur l'antenne de Graphite.
Jean-Noël Moreau, Biotine sur Graphite.
Et on va parler d'intelligence artificielle pour finir cette émission avec ces deux articles. Le premier concernant la singularité technologique. C'est le point de bascule où l'intelligence artificielle surpasserait l'humain. Eh bien, ce n'est plus une simple spéculation futuriste. Ray Kurzweil, qui est informaticien visionnaire américain, prévoit cet événement transformateur pour 2045, donc une vingtaine d'années. Cette projection, qui était jugée autrefois fantaisiste, elle gagne en crédibilité avec les avancées fulgurantes de l'intelligence artificielle ces dernières années. Le concept va bien au-delà d'une simple amélioration technologique. Il annonce en fait une redéfinition fondamentale de notre condition humaine. Dès la fin des années 90, Ray Kurzweil avait prédit que nous atteindrions l'intelligence artificielle générale quand les ordinateurs pourraient effectuer 1000 milliards de calculs par seconde. Et contrairement aux systèmes d'intelligence artificielle actuels limités à des tâches spécifiques, eh bien cette intelligence artificielle générale représente une intelligence universelle capable d'apprendre et de s'adapter à tout domaine. Selon le futurologue, cette étape cruciale pourrait être franchie dès 2029, soit dans moins de 4 ans. Cette prédiction contraste radicalement avec l'estimation d'autres experts qui envisageaient cette évolution sur plusieurs décennies, voire un siècle. Cette AGI, intelligence artificielle générale, marquera le prélude à une collaboration inédite entre les humains et les machines, dépassant largement nos interfaces actuelles. Les progrès récents dans le traitement du langage naturel, la reconnaissance d'images, l'apprentissage automatique, bien tout ça suggère que cette révolution pourrait effectivement se produire plus tôt que prévu. La vision de Kurzweil va bien au-delà d'une simple coexistence avec les machines intelligentes. Il anticipe en fait une véritable fusion biotechnologique qui transformera radicalement notre nature. Cette symbiose prendrait forme grâce à des nanorobots, des petits robots, des robots minuscules qui circuleraient dans notre système sanguin, créant une interface directe entre notre cerveau et les ordinateurs. Et ces dispositifs microscopiques pourraient amplifier notre intelligence naturelle d'un facteur spectaculaire jusqu'à 1 million selon les estimation. Alors cette perspective soulève plusieurs questions fondamentales, bien évidemment. Que signifiera être humain dans un monde d'hybridation homme-machine ? Comment cette augmentation cognitive modifiera-t-elle nos interactions sociales ? Quels cadres éthiques devront encadrer cette révolution ? Ça, l'éthique, on en parle très souvent dans cette émission, mais j'ai l'impression qu'on n'en parle que dans cette émission, mais au niveau des politiques, on n'en parle pas du tout, ou très peu. Et enfin, comment gérer les inégalités d'accès à ces technologies transformatrice. Alors pour certains chercheurs, ce processus a déjà commencé avec nos smartphones, nos dispositifs connectés qui étendent nos capacités cognitives. La fusion complète ne sera donc qu'une évolution naturelle de cette tendance qui est déjà existante. Kurzweil ne limite pas sa vision à l'intelligence augmentée. Il prévoit également des bouleversements majeurs dans notre rapport au vieillissement et à la mortalité. Les avancées médicales issues de cette convergence technologique pourraient nous permettre d'atteindre une vitesse de libération de la longévité dès les années 2030. 2030, c'est demain. Ce concept désigne un stade où chaque année de recherche médicale permettrait de gagner plus d'une année d'espérance de vie. Et le vieillissement ne serait plus une fatalité croissante avec l'âge, ça ouvrirait la voie à une forme d'immortalité relative, bien que la mortalité accidentelle, bien sûr, persisterait. Sur le plan sociétal, cette transformation nécessiterait des adaptations profondes. L'automatisation massive pourrait rendre obsolètes de nombreux emplois traditionnels. Et pour répondre à ce défi, Kurzweil suggère l'instauration d'un revenu universel de base garantissant la stabilité sociale dans un monde où le travail humain conventionnel perdrait en centralité. Si les projections de Kurzweil se réalisent, eh bien, nous vivons actuellement les dernières décennies d'une humanité classique, entre guillemets. Cette perspective divise profondément la communauté scientifique. Des chercheurs plus conservateurs, on va dire, émettent des doutes sur la faisabilité technique et le calendrier de l'intelligence artificielle générale. D'autres s'inquiètent des risques éthiques d'une telle évolution. Néanmoins, l'accélération exponentielle des progrès technologiques observés ces dernières années donne du crédit, bien sûr, aux thèses de Kurzweil. L'émergence récente de modèles d'intelligence artificielle comme ChatGPT, par exemple, capable de raisonnement complexe et de créativité, ça illustre cette accélération. Ces avancées nous rappellent l'importance cruciale d'anticiper et d'orienter consciemment cette transition historique vers un nouveau chapitre de l'évolution humaine. Voilà, c'est assez, j'allais dire inquiétant, peut-être pas, j'en sais rien, mais en tout cas, on voit très bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et qu'on ne maîtrise peut-être pas totalement. Alors, l'intelligence artificielle, qui est donc en plein essor, c'est intéressant peut-être de voir quels sont les métiers qui recrutent dans l'intelligence artificielle. Et donc, pour terminer cette émission, Futura Science nous donne la liste des 10 métiers qui existent dans ce domaine-là. Bon, déjà, il y a tout simplement l'ingénieur en intelligence artificielle qui va pouvoir créer, intégrer, gérer la maintenance de systèmes d'intelligence artificielle, bien évidemment. Et il y a le data scientist qui va plutôt analyser les informations qui sont collectées par les intelligences artificielles. Et pour cela, il va créer des algorithmes permettant de collecter ces données, les analyser, vulgariser les informations. Et ce qui est important au niveau des data scientists, c'est qu'ils sont capables de travailler dans différents secteurs, le marketing ou la médecine, par exemple. Oui, on est sur des secteurs d'activité totalement différents, mais le data scientist, lui, peut avoir, comment dire, une vision un peu transverse. Le responsable marketing, intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il y a la mise en place de campagnes marketing à l'aide de l'intelligence artificielle afin de connaître le marché et de faire la promotion d'un produit ou d'un service. Celui qu'on appelle l'entraîneur d'intelligence artificielle, l'idée c'est de pouvoir tester ces intelligences et de pouvoir les rendre beaucoup plus performantes. Il y a le métier de cognicien ou de cognicienne qui consiste à améliorer les outils numériques afin de les rendre plus performants et plus agréables à utiliser par les humains. Et le cognicien peut travailler dans des domaines différents comme la médecine, l'automobile ou le jeu vidéo. Le chargé de projet chatbot, évidemment, hein, le chatbot qui, sur ces systèmes conversationnels automatiques, il y a beaucoup de mini-chatbots sur des sites marchands, et donc le chargé de projet chatbot pourra travailler sur ce domaine-là. Il y a également l'ingénieur de prompt qui imagine et crée des prompts. Ce sont les consignes que l'on donne à une intelligence artificielle, et ça permet d'obtenir une réponse précise et pertinente, que ce soit sous forme de texte, d'image ou de vidéo. Il y a le responsable en ressources humaines, intelligence artificielle, qui va être chargé du recrutement des professionnels, un petit peu de ce que l'on vient de lister. Donc il y a pas mal de métiers dans ce domaine-là. L'analyste financier également, chargé d'évaluer la rentabilité des investissements dans les entreprises de l'intelligence artificielle. Et puis, bah, on l'a dit, et ça a été un petit peu le mot-clé aussi de cette émission, le responsable de l'éthique, intelligence artificielle, qui doit s'assurer que ces intelligences sont créées de manière responsable et éthique. Bien évidemment, c'est peut-être l'un des métiers les plus importants. Donc, c'est des domaines qui recrutent. Alors, il faut quand même avoir un niveau d'études peut-être un peu poussé, mais totalement accessible. Et voilà, et on voit de plus en plus d'offres qui sont proposées dans ces domaines-là. Donc, si vous êtes soit jeune, en train de se demander ce que vous voulez faire plus tard, ou si vous êtes en reconversion professionnelle, bah, ça peut être des domaines qui recrutent en ce moment, bien évidemment, parce qu'on voit très très bien que c'est en plein essor. Et qui dit plein essor, dit ressources. Intelligence artificielle, mais on a encore besoin de l'homme, en tout cas jusqu'à maintenant. Et on a besoin de l'homme pour pouvoir nous écouter sur Graphite, bien sûr. J'étais très heureux de vous avoir accompagné tout au long de cette émission. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. Et puis, vous avez bien sûr la possibilité de pouvoir nous suivre sur graphite.net, hein, avec la possibilité de pouvoir récupérer tous les podcasts de toutes les émissions de Graphite. Et vous nous suivez aussi sur le 94.9 pour la bande FM en fond sonore, Bad Boys d'Inner Circle qu'on a écouté tout à l'heure, c'était tellement sympa. Je vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. C'était agréable d'être avec vous aujourd'hui, j'espère que c'était réciproque. On se retrouve samedi prochain, à bientôt, au revoir. Like a bloody fool if you get hot.